En 1604, Karl von Mander écrit « Voilà pourquoi il me semble opportun de traiter d'abord de l'éminent peintre Octavius von Wien. »
Cette phrase a été écrite il y a plus de 400 ans et aujourd'hui, elle nous met sur une bonne voie. En 1604, Karl von Mander a écrit le Schilderbuch, le livre des peintres, la toute première biographie des artistes aux Pays-Bas historiques. Comme il le suggère lui-même, parlons d'abord du meilleur maître de Rubens, Otto von Wien. Nos grands maîtres du baroque ont peut-être été un cadeau artistique du ciel, mais ils ne sont pas pour autant soudainement apparus de nulle part. Eux aussi avaient des maîtres qui transmettaient une longue tradition artisanale et ses techniques. Rubens, Van Dyck et Jordaens, eux, sont avant tout des innovateurs par le choix de nouveaux sujets et thèmes, en donnant un nouveau contenu intellectuel à leurs œuvres et en recherchant un nouveau public, par exemple pour le genre du portrait. Dans cette église, nous pouvons reconnaître deux aspects importants. Comment se prépare un tableau et comment une œuvre en inspire une autre. Le saint patron de l'église est André. On s'attendrait à un tel thème sur le maître-autel, mais ici, la peinture a été reléguée sur le mur latéral du côté du chœur. Comme saint patron des Bourguignons, André bénéficiait d'une attention particulière à l'époque de la contre-réforme. En 1594, Otto von Wien reçut la commande pour cette œuvre qu'il acheva dans les années suivantes, au plus tard en 1599, pendant que le jeune Rubens travaillait dans son atelier. En préparation, il avait peint un modèle dont cette église est d'ailleurs l'heureuse propriétaire au trésor. Prenez ce « heureusement » au pied de la lettre, parce que la grande œuvre, elle, a été recollée, repeinte et recadrée. La qualité de l'image s'est considérablement détériorée et elle est maintenant une ombre du modello. Grâce au jeu de lumière, les détails et les couleurs vives sont mieux mis en valeur. Au premier plan s'offre une scène d'envergure, dont la partie inférieure est clairement composée comme un triangle. La masse du public à l'arrière-plan rend la lecture difficile. Le décor à l'antique évoque Patras en Grèce. Gardez en mémoire la pleine lumière sur le visage de l'apôtre, toujours prédicateur, qui lève les yeux vers le ciel. Les bourreaux athlétiques, le proconsul à cheval, sa femme avec ses enfants, qui elle s'est convertie au christianisme et qui nous regarde, et le petit chien. Lorsque vous vous retrouverez face à face avec la célèbre érection de la croix de Rubens dans la cathédrale Notre-Dame, vous remarquerez plusieurs similitudes. Dans les Pays-Bas historiques, à Anvers en particulier, le baroque exubérant est resté un langage artistique familier pour susciter des émotions jusqu'au milieu du XIXe siècle. En témoigne la chaire avec l'appel d'André et de Pierre. Mais jetons d'abord un regard sur un chef-d'œuvre de la sculpture baroque de la main d'Artus Quellin Ier, dit l'Ancien, Saint-Pierre, lui qui a renié son maître Jésus avant même le chant du coq. La force physique et la lutte intérieure de l'apôtre peuvent être lues dans son langage corporel, dans ses mains serrant la croix, dans son visage tendu. Le rendu tactile du tissu fin du sous-vêtement et le tissage plus épais de la cape rehaussent encore l'anatomie du personnage. En trois dimensions, le sculpteur modèle son matériau pour nous convaincre qu'il y a là un être humain devant nous, une masse d'émotions contenues.